Chapitre 5. Sainteté collective. Dans les chapitres 3 et 4 de cette première épître aux Corinthiens, l'apôtre a traité des querelles et des divisions qui existaient dans l'assemblée à Corinthe. Dans la section suivante de son épître, du chapitre 5 à 7, il traite du grand sujet de la sainteté. Au chapitre 5, il parle surtout de la sainteté collective, au chapitre 6 de la sainteté individuelle et au chapitre 7 de la sainteté dans les relations de famille. Il montre que la sainteté collective doit être maintenue en ôtant le vieux levain de l'assemblée et en retranchant une personne méchante du milieu des saints, que la sainteté individuelle est maintenue par le jugement de soi et que la sainteté de famille est maintenue par le bon usage des relations établies par Dieu. L'apôtre a déjà rappelé à ses saints qu'ils sont le temple de Dieu, et il dit « L'Esprit de Dieu habite en vous ». Puis il ajoute « Le temple de Dieu est saint ». Chapitre 3, versets 16 à 17. La présence de Dieu ne tolère pas le mal et requiert la sainteté. Quelle que soit la forme que prenne la maison de Dieu, que ce soit un édifice matériel comme autrefois, ou un édifice spirituel composé de croyants, le premier grand principe immuable de la maison de Dieu est la sainteté. Comme nous lisons, « La sainteté sied à ta maison, ô Éternel, pour de longs jours. » Psaume 93, verset 5. Ézéchiel place la sainteté comme le grand principe directeur de la maison de Dieu. « C'est ici, dit-il, la loi de la maison. Sur la cime de la montagne, toutes ses limites tout alentour sont un lieu très saint. Voici, telle est la loi de la maison. » Ézéchiel 43, verset 12. Verset 1. Citation de l'Écriture. On entend dire partout qu'il y a de la fornication parmi vous, et une fornication telle qu'elle n'existe pas même parmi les nations, de sorte que quelqu'un aurait la femme de son père. Fin de citation. L'état charnel de ces croyants se montrait non seulement en ce qu'ils se rangeaient à la suite de docteurs favoris, générant ainsi des divisions, mais ils se manifestaient aussi par un relâchement des mœurs extrêmes. Ils étaient entourés par la corruption du paganisme dont ils venaient juste de sortir, et ils avaient été habitués à considérer à la légère les péchés grossiers. Néanmoins, il s'était produit parmi eux un cas de dépravation si grossier qu'il aurait fait honte aux païens. Verset 2. Citation de l'Écriture. « Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette action fût ôté du milieu de vous. » Fin de citation. En outre, il y avait non seulement eu ce mal grossier au milieu d'eux, mais ils toléraient aussi le coupable. En effet, ils étaient enflés d'orgueil au lieu de mener deuil. Il est vrai qu'ils n'avaient reçu aucune direction apostolique sur la manière de traiter un fautif, mais les instincts spirituels auraient au moins dû les conduire à s'humilier du péché de cette personne méchante et à désirer son éviction. Nous apprenons ainsi qu'en l'absence d'instruction spéciale entraînant des responsabilités précises, les sensibilités morales de la nouvelle nature devraient nous conduire à adopter certaines lignes de conduite. Il peut arriver que la conduite de quelqu'un soit un tel exercice pour les saints qu'il soit amené à désirer son éviction du milieu d'eux sans pour autant avoir de base claire pour agir. Dans de tels cas, ce passage de l'Écriture indique clairement que nous pouvons exposer l'affaire devant le Seigneur et mener deuil devant lui avec l'assurance de son intervention pour ôter le perturbateur. Le Seigneur, dans un tel cas, fait lui-même ce que nous pouvons avoir à faire lorsque le cas est clair. Il peut être bon de noter à cet égard que « ôter » du verset 2 dans « afin que celui qui a commis cette action fût ôté du milieu de vous » et « ôter » du verset 13 dans « ôter le méchant du milieu de vous-même » sont effectivement des mots similaires dans l'original. Comme quelqu'un l'a dit, l'humiliation et la prière sont la ressource de ceux qui sentent un mal sans en connaître encore le remède. Versets 3 à 5. Citation de l'Écriture. Car pour moi, étant absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà, comme présent, jugé vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de livrer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ celui qui a ainsi commis cette action. J'ai jugé, dis-je, de livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus. » Fin de citation. L'apôtre donne ensuite des directions précises sur la manière d'agir dans un cas avéré de mal public. Il était absent de corps, mais présent en esprit, et avait déjà jugé, comme s'il était présent, ce qui serait à faire quand ils seraient ensemble, selon les indications données par l'autorité apostolique et avec la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait agir au nom du Seigneur Jésus-Christ en livrant un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus. Il est bon de noter soigneusement ces instructions et ce qu'elles impliquent. Vous, étant assemblés, au verset 4, suppose l'assemblée dans son état normal, composée de tous les saints de la localité, agissant dans l'esprit qui animait l'apôtre et dans la puissance du Seigneur Jésus avec eux. Assemblés ainsi, ils agiraient comme représentant le Seigneur Jésus-Christ en livrant un tel homme à Satan. Ceci suppose qu'en dehors de l'assemblée, il y a le monde dominé par Satan. Le coupable s'était conduit d'une manière telle qu'il s'était démontré impropre à la présence du Seigneur, et il était donc livré à la sphère de Satan en dehors de l'assemblée. Même ainsi, il n'était pas considéré comme un incrédule, car c'était pour la destruction de la chair, afin que son esprit puisse être sauvé dans la journée du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, cela ne pourrait pas être réalisé comme quand les choses étaient normales. Nous ne pourrions pas livrer un tel homme à Satan, car dans la ruine de la chrétienté, aucun groupe ne pourrait dire qu'à l'extérieur de leur assemblée, il n'y a rien d'autre que le monde de Satan. Et aucune assemblée ne peut prétendre inclure tous les saints de la localité. Néanmoins, l'injonction de la fin du chapitre subsiste. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Le résultat peut, en effet, être que le méchant vienne sous la puissance de Satan pour apprendre à juger la chair en lui-même, alors qu'il a manqué de la juger quand il était dans le lieu de la puissance de Christ. Versets 6 à 8. Citation de l'Écriture. Votre venterie n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière? Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car aussi notre Pâque, Christ, a été sacrifié. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité. Fin de citation. L'apôtre poursuit en montrant le résultat solennel de l'insensibilité morale qui tolère le mal non jugé au milieu d'eux. Le mal est présenté sous la figure du levain. Comme un peu de levain imprègne toute la pâte, ainsi, dans toute assemblée de chrétiens, le mal connu et non jugé a une incidence sur l'ensemble. Toute la pâte levée ne signifie pas que le groupe tout entier devient incestueux comme le coupable, mais que tous sont souillés. Rien ne condamne plus clairement le faux principe qu'un péché connu dans l'assemblée ne concerne que celui qui est directement coupable et n'implique pas l'ensemble. Il ne suffit donc pas d'ôter le méchant. Ils devaient se juger eux-mêmes à cause du bas état qu'avaient pu consentir à tolérer le mal. Ainsi, ils ôteraient le vieux levain et seraient en pratique ce qu'ils étaient en position devant Dieu en Christ, une pâte sans levain, comme résultat de l'œuvre de Christ. Nous sommes donc exhortés à célébrer la fête, non avec le vieux levain de l'indifférence au péché, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec sincérité et vérité. Quand l'apôtre dit « célébrons la fête », il ne se réfère pas exclusivement à la scène du Seigneur, mais plutôt à toute la période de la vie du croyant sur la terre, dont la fête des pains sans levain est un type. Versets 9 à 13. Citation de l'Écriture. Je vous ai écrit dans la lettre de ne pas avoir de commerce avec des fornicateurs, non pas absolument avec les fornicateurs de ce monde, ou les avares et les ravisseurs, ou les idolâtres, puisqu'ainsi il faudrait que vous sortissiez du monde. Mais maintenant, je vous ai écrit que, si quelqu'un appelé frère est fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de commerce avec lui, que vous ne mangiez pas même avec un tel homme. Car qu'ai-je à faire de juger ceux de dehors aussi? Vous, ne jugez-vous pas ceux qui sont de dedans? Mais ceux de dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Fin de citation. Dans ces versets, l'apôtre montre qu'en exhortant les chrétiens à exercer la sainte discipline et à vivre une vie de sincérité et de vérité, il se réfère au cercle des chrétiens. Étendre ces qualités à l'homme du monde serait irréaliste et impossible. Toutefois, si quelqu'un appelé frère vit ouvertement dans un péché non jugé, nous ne devons pas avoir de relation avec lui, ni montrer aucune communion avec lui en mangeant un repas avec lui. Ce n'est pas l'affaire du chrétien de tenter de redresser le monde en jugeant son mal. Cela, Dieu le fera en son temps. Notre responsabilité consiste à juger tout mal qui peut se manifester dans l'assemblée chrétienne. Par conséquent, l'apôtre dit « Ôtez le méchant du milieu de vous-même ».